Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Libre Journal de l'Occident. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Conquer, qui est porte-parole de Republican Overseas pour la France et fondateur de l'Institut Western Arc et également auteur de l'ouvrage « Vers un Trump français » avec en sous-titre « Colère française, miroir américain ». Et nous allons parler un petit peu de cette identité américaine et de ce qu'elle représente aujourd'hui pour l'Occident et pour la France particulièrement. Également avec nous Alexandre de Gelsin, journaliste à Radio Courtoisie, plus particulièrement à Ligne Droite, cette magnifique matinale avec laquelle j'ai la chance de collaborer de temps en temps et qui est menée d'une main de maître sur ce même plateau. Bonjour Alexandre.
Bonjour François-Xavier.
Donc aujourd'hui, l'émission qui nous réunit, c'est un bilan sur la politique américaine plus généralement. Alors tout le monde nous dit depuis des semaines, voire des mois, que les midterms approchent, les élections de mi-mandat qui sont en général un marqueur important de la vie politique américaine. En vérité, ces élections sont en novembre. Elles risquent peut-être de voir le camp Trump perdre la majorité au Sénat et à partir de là risquer un blocage pour l'intégralité de sa volonté de changement en profondeur de la société américaine, puisque je pense que de manière assez claire ça a été énoncé par le camp Trump, cette volonté de réforme. Ce nouveau mandat Trump, déjà sur cette première moitié de mandat, même s'il reste encore quelques mois avant les midterms, Nicolas Conquer, qu'a-t-il de différent du premier? Parce qu'on sait qu'il n'a pas été élu avec la même majorité, il n'a pas été élu avec le même entourage, il n'a pas commencé de la même manière. C'était le président de la Heritage Foundation qui nous disait qu'il avait préféré cette fois-ci travailler sur les institutions avant de travailler sur les réformes en elles-mêmes pour être moins bloqué dans son travail. Quelle est la différence entre le mandat Trump 2 et Trump 1?
Oui, vous faites bien de faire cette distinction, d'autant plus que lors de la première campagne, Donald Trump prend tout le monde de court et c'est quasiment une surprise générale, voire même lui, et qui, dans son instinct de metteur en scène, il assume et il déploie son style, mais il est quand même entravé de l'intérieur. Rappelez-vous, ce qui a fait sa notoriété et ce qui l'a fait émerger lors des primaires républicaines, c'est « je vais construire un mur ». À la frontière sud face au Mexique, je vais build the wall.
Et le Mexique va payer.
Et c'était aussi, je vais assécher le marais, drain the swamp. Et ça fait référence donc à la corruption qu'il y a à Washington, mais également, il faut savoir que Washington a été construit, d'ailleurs par des architectes français, l'enfant, sur un marais, historiquement. N'y allait pas en été, c'est extrêmement humide et plein de moustiques. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment son prend de ce qu'on appelle le deep state, qui est aussi communément appelé l'état administratif. C'est tout ce pouvoir non élu qui peut venir entraver la marche du gouvernement et de exécutif qui aurait été dûment élu. Et donc il arrive et effectivement il s'est appuyé sur une administration qui était composée un peu de bric et de broc forcément lui ont pas forcément fait des cadeaux et qui a pu ralentir son action durant son premier mandat. Durant son deuxième mandat, on peut voir que vous avez des organisations dont vous avez parlé qui sont des think tanks, des fondations, la Heritage Foundation, le America First Policy Institute et d'autres qui ont travaillé à toute une forme de doctrine qui se fait en marge des partis politiques et qui viennent fournir tout l'appareil, toute la production en fait d'amendements, de décrets qui vont pouvoir être mis en place dès que le président sera intronisé, investi à la Maison Blanche. Et donc ça en soi, ça permet d'avoir une administration, un mandat qui est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que quand même il y aurait un revers aux élections de mi-mandat, qui rappelons-le sont dans 6 mois, c'est un temps extrêmement long au vu des cycles médiatiques qui s'enchaînent. Vous savez, la tentative d'assassinat qu'avait eu Donald Trump au dîner des correspondants, c'est quasiment déjà sorti des radars. Il y a une succession de temps qui peuvent faire en sorte que Donald Trump peut sans doute, à travers son talent dans la campagne, reprendre un peu l'ascendant sur des sondages qui lui sont pas favorables. Mais j'en termine pour dire que ce qu'il a pu mettre en place dans cette première partie de mandat, il a vraiment posé les fondations pour la politique qui va continuer de s'appliquer pendant la fin de son mandat.
Alors en effet, on reste sur vous Nicolas Conquer, vous dites drain the swamp, en effet, s'attaquer à la corruption, s'attaquer à l'argent public dilapidé, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour Trump et pour ses proches, et donc dès son début de second mandat, le DOGE, le ministère de contrôle des dépenses publiques, on peut dire ça comme ça.
Ça sonne bien, ça s'appelle l'efficience gouvernementale, voilà, et ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Avec Elon Musk qui avait été mis à la tête de cet organisme, n'est-il pas un... comment est-ce que ce serait pas une préfiguration de l'intégralité de son mandat? C'est-à-dire que on a vu des actions concrètes qui ont été posées, la suspension du SAID, la révélation de contrats plus ou moins opaques qui avaient été passés avec des médias de gauche qui avaient perçu des subventions de la part du gouvernement, etc. Donc quelque chose de très opaque auquel il faut vraiment s'attaquer, mais qui se termine en fait par une sorte de dissolution du Doge et une démission de ou un renvoi de Musk. Est-ce que c'est pas un peu, on en parlera aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de bilans à tirer de tout ce que Trump a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais est-ce que c'est pas vraiment le modèle qu'on observe depuis le début? Beaucoup d'action, beaucoup de volonté, une puissance de frappe qui est énorme, mais qui in fine arrive à bout de souffle un peu trop rapidement.
Le volontarisme, ça indéniablement. Après, les situations, elles se ressemblent sans forcément être les mêmes. Là, vous prenez le cas du Doge, donc c'est une agence qui n'était pas tout à fait gouvernementale, mais sur laquelle Elon Musk avait un mandat de 180 jours, l'équivalent de 6 mois pour agir. Il y a consacré beaucoup de temps, de sacrifices réputationnels et aussi de risques au même aux dames de sa propre vie. On voit même en France, hein, toute proportion gardée, Charles Laloncle, lorsqu'il met en place sa commission de l'audiovisuel public, il est sujet à beaucoup de menaces, d'intimidations, de calomnies incessantes. Et c'est que d'aller secouer, mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça suscite beaucoup de réactions, d'entraves, de menaces. Et donc, à la suite de ça, vous voyez que Elon Musk s'est consacré pour réduire des dépenses gouvernementales. En revanche, que les partis, quels qu'ils soient aux États-Unis, que ce soit démocrates ou républicains, sont peu enclins pour réduire la dette. Et donc, à la suite de ça, on en pourra en parler, mais Donald Trump fait passer un énorme texte législatif qui, certes, fait passer des coupes fiscales et des baisses d'impôts, mais qui augmente le déficit. Donc, c'est là où vous avez du mal à réconcilier ceux qui sont idéalistes à la Elon Musk versus ceux qui sont pragmatiques, à savoir ceux qui ont un pays à gouverner. Donc, c'est effectivement... ça s'est poursuivi, hein. C'est juste que Elon Musk n'est plus à sa tête. Il y a un effort constant d'aller réduire les coûts, mais le simple fait d'avoir mis au grand jour ce système d'opacité, voire même de fraude organisée, c'est-à-dire que bah, les copains démocrates, comme on peut le voir en France aussi, hein, sont recasés à des places de choix, alors que il y a rien qui ne le justifierait. Mais effectivement, il y a peut-être plus d'attentes qui avaient été nourries par rapport à ce département, cette agence, qui s'est peut-être concentré à la marge sur des économies qui pouvaient être faites sur de l'efficacité, plutôt que de prendre à bras-le-corps les sujets sur vraiment les textes, la Constitution. Et encore une fois, ça c'est une différence d'approche. Soit on taille un petit peu à la serpe, soit on arrive avec la tronçonneuse et là on engage des réformes de fond, mais qui encore une fois nécessitent d'avoir un plus fort soutien populaire et que ce soit unanime. Par la suite, d'ailleurs, vous verrez que ce qui a été initié par Musk, et j'en termine par là, a aussi donné des élans vers le journalisme citoyen. Et je me tourne vers les journalistes autour de la table, mais également certains de nos confrères qui se mettent à faire ça. On a parlé d'un jeune qui s'appelle Nick Shirley, qui a 24 ans, et qui allait investiguer dans certains états dans lesquels c'était notaire et public qu'il y avait de la fraude. C'est un journaliste, il y va et il va dire bah, « Tiens, vous êtes une crèche privée ici, mais je vois pas d'enfants. » Et donc, aller interroger et mettre la focale sur ce genre de problème. Et ça nous ramènera sur un sujet dont on parlera plus tard, à savoir l'action des agents de l'immigration au Minnesota.
Alors, Alexandre de Galzin, je vais rebondir justement sur cette métaphore de la tronçonneuse, puisque Trump s'est vu offrir une tronçonneuse par Javier Milei, il me semble.
C'était Musk s'était offert par Milei. Ouais.
Exactement. Et donc, en fait, justement, c'est cette recomposition un petit peu des amitiés autour de Trump. On voit que le second mandat, il est beaucoup moins enclavé, que ce soit en interne comme à l'international. On a vu cette magnifique romance avec Giorgia Meloni qui malheureusement a vécu un petit coup d'arrêt dernièrement, mais avec Viktor Orban, avec via Musk, avec l'AFD, avec d'autres alliés européens, et également en interne avec une nouvelle frange qui a rejoint une espèce de post-républicanisme avec une nouvelle frange qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, mais ce terme me hérisse un peu le poil, donc on parlera d'une politique alternative américaine à droite, avec notamment le vice-président Vance, avec le secrétaire d'État à la guerre, avec la secrétaire générale de la Maison Blanche, qui sont tous issus d'une nouvelle caste de politiciens qui a changé la face du débat.
En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme le disait très bien Nicolas Conquer, déjà en 2015, il faut savoir que même trois mois ou six mois avant les résultats de la primaire républicaine, personne ne donne Trump gagnant. Personne. C'est-à-dire que je crois qu'il est encore à quelques pourcents et finalement, il l'emporte de manière impressionnante. Son mandat passe, il perd en 2020, donc face à Joe Biden. Une défaite qui, évidemment, est un rude coup, qui est en plus accentué par l'affaire du Capitole, qui fait que Donald Trump en fait, est un peu obligé de se retirer de la vie publique. Il n'a plus accès à son compte Twitter. Et puis, à ce moment-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il passe un certain temps à Mar-a-Lago, donc sa résidence principale. Et on sait que, en fait, pendant justement ces 4 années de mandat de Joe Biden, Donald Trump en passe une bonne partie à Mar-a-Lago, notamment les 3 premières, donc à peaufiner en réalité ce que sera son second mandat. Et là, effectivement, la grosse différence en 2024, quand l'élection commence vraiment aux États-Unis, c'est que il y a quelques opposants qui essayent de se mettre, de barrer la route à Donald Trump au sein des Républicains. Je pense bien sûr à Ron DeSantis, je pense également à Vivek Ramaswamy, je pense à même d'autres, enfin voilà, qui justement ont essayé de se positionner face à Donald Trump, sauf que on s'est aperçu de quelque chose à partir de ce moment-là, mais qu'on observait déjà depuis les midterms de 2022, c'est que Donald Trump a complètement fait une OPA, comme on dit, enfin en tout cas qu'il a complètement pris la main sur le Parti républicain. C'est-à-dire qu'en fait, le Parti républicain devient, dans son immense majorité, un parti MAGA, un parti America First en bonne partie, et que pour le coup, il arrive à étouffer finalement tous les courants dissidents qui sont à l'intérieur pour tous les réunir autour de sa personne qui est évidemment extrêmement charismatique. Et donc, arrive 2024 et arrive la nouvelle élite trumpienne quelque part. C'est un petit peu comme ça que c'est présenté. C'est justement toute une nouvelle génération aussi, parce que c'est plutôt des jeunes qui finalement sont actuellement à la tête du pays. À côté de ça, c'est notamment des personnalités comme Pete Hegseth, c'est des personnes comme évidemment J.D. Vance, qu'on ne présente plus, Marco Rubio, qui était déjà connu, mais en tout cas qui reste une personnalité aussi jeune. Et dans le fond, évidemment, il y a aussi d'autres personnes qui s'agrègent à ça. Vous parliez d'Elon Musk. Pour moi, c'est un très bon exemple. Elon Musk qui arrive un petit peu au moment du tournant de la campagne, je dirais, en septembre, donc 2024. Et puis, il y a cette histoire de maintenant qu'on a toute l'équipe, maintenant qu'on a tout le monde, en fait, il faut mettre en place une politique. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Parce qu'en réalité, on observe quelque chose, c'est que s'il y a une nouvelle génération qui, effectivement, est capable, en termes de nombre, en termes de personnes, de s'installer vraiment à la place du Deep State et de le remplacer en bonne partie, vous citiez la Heritage Foundation, l'America First Policy Foundation, qui font parfois de l'excellent travail aussi, le souci, c'est que aussi ils se confrontent à comment on gère un pays, alors que en réalité, ce sont les démocrates, c'est le Deep State qui a géré un pays pendant 15-20 ans auparavant. Et là, on voit que ça marche pas. On voit que ça marche pas sur bien des points. Le Doge, en réalité, ça reste dans le fond un échec parce que Elon Musk, une des raisons pour lesquelles il n'arrive pas à mettre ça à bien et jusqu'au bout, c'est d'abord parce qu'évidemment le Deep State l'a pas aidé, celui qui était déjà en place, mais aussi parce que en réalité, ils se mettent à virer des gens à l'appel. Et ça déplaît aux républicains parce qu'il y a aussi des républicains qui se font virer dans les gens qui se font licencier comme ça au sein de l'État. Et pareil, petit à petit, ce qui commence à se mettre en place, c'est que on voit que les gens qui sont autour de Donald Trump sont d'abord des fidèles, d'abord des personnes qui sont très loyales à Donald Trump. Mais est-ce que ce sont les personnes qui sont capables de lui dire les vérités qui sont difficiles? Ça reste plus compliqué à affirmer. Donald Trump, maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il est un petit peu omnipotent, c'est-à-dire qu'il a quand même la Cour suprême avec lui, il a les 2 chambres avec lui, il a évidemment le gouvernement, enfin théoriquement, il a les mains libres pour faire absolument tout ce qu'il veut, mais malheureusement, ça fonctionne pas, et en l'occurrence, il a même pas forcément l'excuse qu'il avait en 2016 avec le Deep State, dans le sens où maintenant, lui a effectivement la capacité de le changer, a la capacité de nommer qui il veut, et finalement, il se retrouve à devoir vraiment gérer un pays tout seul avec son équipe, et c'est là que ça commence à coincer.
Juste sur ce deuxième mandat, ce qui est assez important, c'est une dynamique qui est différente. On rappelle, en 2016, Donald Trump est élu avec le collège électoral, il n'a pas le vote populaire. Donc c'est une spécificité au vote américain. En 2024, non seulement il a le vote populaire, et c'est la première fois depuis 20 ans qu'un républicain obtient ce vote populaire, mais il obtient aussi la majorité à la Chambre et au Sénat. On appelle ça une trifecta, ce qui vous permet de pouvoir avancer plus facilement votre agenda. Ça, c'est sur le papier. En regard de manière plus précise, c'est que notamment à la Chambre des représentants, il y a 435 parlementaires. La majorité républicaine est très ténue, c'est de 3 postes. trois voix, ce qui fait que c'est très précaire et vous devez maximiser, obtenir l'unanimité de vos partisans pour qu'ils font avancer vos votes, ce qui, on voit dans les faits, est parfois plus difficile à rallier, d'autant plus qu'il y a certains votes pour lesquels il ne faut pas uniquement une majorité simple, il faut quasiment les deux tiers des votes au Sénat, ce qui suscite de la capacité à mettre en place des coalitions. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui doit être une très grande inspiration pour nous, la famille patriote nationale en France, de cette capacité à créer des coalitions, parfois avec des intérêts divergents. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se coaliser autour d'une plateforme commune pour faire campagne et à être à la conquête du pouvoir, et ensuite dans l'exécution on verra comment ça marche, mais il se peut qu'il y ait des tensions divergentes qui génèrent des fractures. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que je pense que c'est un des mérites auxquels on peut assez facilement attribuer à Donald Trump, non seulement par son charisme mais par sa capacité aussi à agréger des électorats différents. Où, vous voyez, on a parlé de J.D. Vance, c'est quelqu'un qui vient d'une région sinistrée des États-Unis complètement désindustrialisée. Il parle pour ainsi dire aussi à Elon Musk et à Peter Thiel, qui sont des géants de la Silicon Valley, qui sont les grands gagnants de la mondialisation, qui veulent plus d'immigration qualifiée. Donc il y a des intérêts éminemment divergents qui sont animés quand même par un certain sentiment patriotique, mais qui dans les faits aussi peut parfois avoir des petites lignes de fracture une fois qu'on est aux affaires.
Mais justement, pardon, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Trump fait quelque chose qu'on est en droit d'espérer aussi d'une certaine façon en France, c'est que, mais qui, enfin, il donne quelque part un bon et un mauvais exemple à la fois. C'est-à-dire que, il y a un côté où, évidemment, que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir fait que maintenant il y a une possibilité de recomposition des courants à droite. C'est-à-dire qu'auparavant, comme le dit Nicolas Conquer, en fait, tout le monde devait s'unir derrière Donald Trump parce que c'est le seul espoir de victoire. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait pas se permettre d'avoir une tendance isolationniste, une tendance pro, on va dire, néo-conservatrice, une tendance pro-Israël, une tendance ailleurs, etc. Avant, c'était impossible d'avoir ça. Maintenant, il y a cette coalition, Trump est au pouvoir, et désormais, les droites se recomposent un peu. Et en fait, on voit de plus en plus différentes nuances de droite s'exprimer aux États-Unis. C'est ça qui est assez intéressant, même pour nous, en France, dans la perspective de 2027, c'est que on voit, par exemple, qu'il y a eu des défections dans le camp de Donald Trump. Par exemple, je pense au sénateur Thomas Massier, qui, lui, pour le coup, avec Marjorie Taylor Greene, qui est une autre figure extrêmement connue, pour le coup, des républicains, eux se sont complètement désolidarisés de Donald Trump, et ça c'est pour les figures parlementaires, parce qu'on pourrait même citer d'autres personnalités comme Joe Kent, qui lui justement était directeur du Centre National de Lutte Contre le Terrorisme, qui au moment de la guerre en Iran, en fait, met une défection. On peut penser aussi évidemment à Tucker Carlson, Nick Fuentes, etc., qui ont été des soutiens de Donald Trump durant la campagne de 2024, mais qui maintenant en fait se retrouvent en désaccord avec lui, et se retrouve plus du tout dans les politiques qui étaient menées, qui disent que le America First a été trahi. Et même on peut voir encore plus récemment le fait que les catholiques américains républicains, qui sont quand même nombreux, Donald Trump pas la majorité des catholiques, mais on a quand même une bonne partie
Il y a pas de retour de Donald Trump à la Maison Blanche sans le vote des catholiques.
Ouais, exactement.
Une bascule de 14 points, j'ai un chapitre entier qui plaira aux auditeurs, qui s'appelle l'America
Tour. Historiquement c'est 50-50, mais sous Trump il y a une bascule
Effectivement déjà il y a pas eu beaucoup de présidents catholiques. Il n'y en avait que deux, Kennedy et Joe Biden. Mais de fait, il y a eu une bascule de 13 points entre 2020 et 2024. Donc c'est matériel, c'est significatif. Et c'est aussi beaucoup plus fracturé, j'en termine par là, parce qu'on ne sait pas comme les cathos zombies, comme nous considère Emmanuel Todd en France, c'est beaucoup plus fracturé dans leurs origines sociales, ethniques, économiques. Et c'est un bon marqueur aussi. Mais on voit d'ailleurs que, indépendamment du fait que le nouveau pape Léon soit un né américain, c'est aussi un courant qui a beaucoup le vent en poupe par rapport à tous les errements des églises protestantes et progressistes. Le catholicisme, vraiment, ils ont du mal à appuyer.
C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, même en soi, les deux candidats, on va dire, qui ne sont pas déclarés, bien sûr, mais pour 2028, ce sont quand même Marco Rubio et J.D. Vance qui sont catholiques. Le problème, c'est que même dans ce cadre-là, Donald Trump arrive à se fâcher avec la catholique, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais avec les polémiques récentes et honnêtement, qui ont eu de l'écho aussi. Donc, en fait, quelque part, ce qui est assez intéressant, c'est que Donald Trump a réussi à porter toutes les droites au pouvoir et qu'il a réussi à les... Il est en train petit à petit, je pense, de les perdre une par une, ce qui va permettre sans doute des recompositions intéressantes à l'avenir. On voit même qu'en parallèle, les démocrates eux-mêmes sont en pleine recomposition de leur côté parce qu'ils savent pas très bien dans quelle direction ils peuvent évoluer effectivement pour la suite. Mais j'en terminerai par là. C'est effectivement assez intéressant de voir que les courants qui, finalement auparavant se coalisaient, désormais expriment de plus en plus leur individualité et souvent, il faut l'admettre, ça se fait dans le rejet de Donald Trump.
Alors justement, c'était une question que je voulais poser, mais vous avez un petit peu anticipé, parce que j'écoutais tout à l'heure, pour faire de la pub à un média concurrent sur BFM Business, on est sur un autre... j'écoutais un de leurs invités, Romuald Sciurra, qui est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Et militant démocrate.
Hein. Et militant démocrate. Mais qui disait justement, et je pense que c'est un peu le fondement de cette émission aujourd'hui, mais qui nous disait, je suis le premier à militer pour le fait qu'on arrête d'enterrer Donald Trump parce qu'on a passé notre temps à l'enterrer et il passe son temps à revenir plus fort. Et c'est vrai qu'il a cette capacité qu'on a du mal à analyser, hein, parce que après l'entre-deux mandats, les affaires judiciaires, tout ce que les démocrates ont essayé de sortir sur lui pour le salir, etc., on pensait pas qu'il pourrait revenir aussi fort en 2024 et avec un camp aussi soudé et aussi prêt à agir. Actuellement, on vient de parler des dissensions au sein du camp Trump. Elles sont relativement claires. Je pense qu'il y en a deux qu'on peut noter le plus, ce sont les catholiques, mais est-ce que ce sera vraiment durable, on vous posera la question, et surtout les isolationnistes, qui là se sentent un peu trahis quand même, dans le soutien qu'ils ont mis derrière Donald Trump, qui était le président qui n'avait jamais déclenché de guerre. Et en effet, même on peut noter des succès ouvertement observables, hein, sur la paix entre la Thaïlande et le Cambodge, sur
même les accords d'Abraham dans son premier mandat.
Les accords d'Abraham pour le premier mandat, c'était remarquable. Son intervention assez finalement épisodique dans la paix entre Gaza et Israël, mais une forte volonté d'intervenir sur le sujet. Pareil sur des négociations qui n'aboutissent pas avec la Russie en Ukraine, mais il y a quand même la volonté d'intervenir. Et il y a encore d'autres conflits dans lesquels Donald Trump est intervenu pour essayer de calmer un peu tout le monde. Et justement, est-ce que ces dissensions, si tant est que la guerre en Iran se termine rapidement, est-ce que ces tensions pourront être oubliées d'ici les élections de mi-mandat de novembre, ou est-ce qu'on risque vraiment une fracture durable avec ces courants ?
Pour revenir sur le premier point concernant le fait qu'on a toujours trop tendance à enterrer Donald Trump trop vite, effectivement, Donald Trump, lui, il a fait cette force de cette adversité, ce déferlement, c'est grâce à ça qu'il se nourrit d'une certaine manière, et donc du coup, il est quand même revenu en selle systématiquement et sur le devant de la scène. Maintenant, sur le fait est qu'il était beaucoup attendu sur ce fameux nouvel âge d'or américain, en quoi est-ce que concrètement les politiques vont servir les intérêts de la classe moyenne américaine. Il avait une crise migratoire et qu'Alexandre de Galzin a vu de premier abord sur la frontière sud. Il y a résorbé assez rapidement d'ailleurs, ça lui a valu assez peu de crédit d'une certaine manière, comme il est mis à faire assez rapidement. Mais la question est de dire que Donald Trump a consacré beaucoup de son capital politique sur l'international. Et là on se dit, mais on aimerait à ce qu'il se concentre davantage sur... accessoirement, il a aussi mis en place cette fameuse guerre commerciale qui a pour vocation de rapatrier des capitaux, réindustrialiser son pays. Donc il y a un mouvement qui est censé être bénéficié. Et ça se fait quand même sur le temps long. Mais le fait est que de le voir se mobiliser sur des questions Russie-Ukraine ou actuellement sur l'Iran, il y en a qui se disent, mais on est vraiment sur des aspects très concrets, matériels et matérialistes, ce qu'on appelle le bread and butter, le pain et le beurre. De se dire, mais tiens, mon plein de course ou et mon plein à la pompe. Et les œufs aussi, même si ça a pu s'arranger, qui était lieu à une pénurie parce qu'ils massacraient des élevages entiers sous Biden, qu'on a vu par ailleurs aussi en France. Mais ce que ça dit, c'est qu'effectivement, il y a des dissensions et qui sont d'autant plus importantes et amplifiées par les algorithmes que c'est des gens qui soutenaient Donald Trump pendant la campagne. On a parlé de Tucker Carlson, s'il faut trouver quelqu'un peut-être qui était le plus sérieux à l'époque, parce qu'on l'aimait, on ne l'aimait pas. Il avait son monologue digne d'un théâtre élisabétain, tu sais, il faisait ces longs monologues face caméra. Là, aujourd'hui, malheureusement, pour moi qui le suivais depuis longtemps et qui je me suis nourri à ces débats qu'il avait sur CNN à l'époque, au début des années 2000, et c'était vraiment des grands moments de télévision, aujourd'hui, il se perd complètement. Désormais, pour lui, Trump est devenu l'antéchrist. Alors, j'ai pas envie de le balayer purement et simplement, mais c'est quelqu'un qui, par l'amour, en fait, de ce référencement algorithmique, est sans doute allé systématiquement dans une opposition frontale. Et les positions qu'il tient, pour moi, ne sont pas censées, et montre aussi qu'il y a certaines compromissions vis-à-vis du Qatar. Enfin,
ce que j'allais dire, c'est que pour le coup, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, Tucker Carlson a vraiment adopté une ligne tiers-mondiste au dernier degré, ça c'est absolument certain. C'est-à-dire, comme vous dites, les liens avec le Qatar, on peut pas l'affirmer de manière certaine, mais ça se voit qu'il a quand même des liens probablement économiques très forts avec cet émirat. Évidemment, il est sur une pente, on va dire, assez particulière, parce que même on peut se rappeler, par exemple, de cet historien qu'il avait invité, qui expliquait que finalement Churchill était le méchant, enfin, je reprends des termes, hein, le méchant de la Seconde Guerre mondiale. Et il se met quand même à avoir ce côté-là. Cependant, il rejoint un courant qui est aussi celui de in extenso, en tout cas, d'Alex Jones, de Candace Owens ou de Nick Fuentes, qui, malgré tout, sont quand même les durs de durs de l'America First. Et en l'occurrence, eux représentent tout de même des millions et des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et d'écoutes en général, parce que les Américains écoutent beaucoup de podcasts. Donc en fait, pour le coup, c'est des missions dans ce genre. Donc pour le coup, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement, extrêmement répandu là-bas. Et eux, justement, ont agrégé toute une audience incroyable qui, je pense, a été aussi accentuée par la mort de Charlie Kirk, il faut le dire, en septembre, parce que lui coalisait encore un petit peu tout le monde derrière sa figure et donc derrière Donald Trump. Mais le fait est que toutes ces personnes, entre guillemets, de droite alternative, elles, se sont maintenant, sont désormais toutes anti-Trump et disent « je ne deviens pas démocrate pour autant ». Cela étant, il faut absolument qu'il y ait une sorte de droite différente qui émerge. Je pense même à une autre personnalité comme Joe Rogan, qui est pour le coup, lui, un petit peu plus mesuré sur ces sujets et qui a été pro-Trump pendant la campagne de 2024. Maintenant qu'il ne l'est plus du tout, il y a de plus en plus de gens quand même qui... En fait, Tucker Carlson lui-même est pas forcément un bon exemple, mais je pense qu'il traduit quand même un mouvement de fond de rejet de, justement, cette politique objectivement interventionniste de Donald Trump.
Oui, 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 l'opportunisme géopolitique, on reviendra plus précisément sur l'Iran, mais c'est effectivement le torchon brûle entre cette coalition de circonstances qu'il pouvait y avoir avec ces gens qui n'ont pas vocation à intervenir dans la sphère politique. C'est des gens qui font du commentariat sur lesquels vous n'avez pas la main. C'est pas des gens qui vous sont affiliés, enfin, pas Tucker ou d'autres, ils ont leurs propres médias, ils ont leur fonds de commerce, ils ont leur audience. Et donc aujourd'hui, à l'image d'autres détracteurs de Trump, ça fait vendre aussi de taper sur Trump. Et donc, ils n'ont pas d'offres politiques alternatives à proposer. C'est des théories fumeuses, pour ne pas dire complètement alambiquées ou maladives. Candace Owens, je le dis d'autant plus que c'est quelqu'un que je soutenais de longue date, qui aujourd'hui se perd dans « tiens, est-ce que cette personne est vraiment une femme ? Est-ce que c'est Israël qui a tué Charlie Kirk ? Est-ce que c'est la femme de Charlie Kirk qui a tué Charlie ?» Je veux dire, enfin, ça en devient, mais c'est effroyable. On prend en otage de tout le bon sens et on a vraiment... ça donne une terrible image. Et encore une fois, on voulait dire « tiens, c'est les soutiens à Donald Trump qui s'effritent » alors qu'il n'y est pas les mains mortes vis-à-vis de chacun de ses interlocuteurs. Donc effectivement, il a pris sa distance. Je pense que... lorsqu'il va y avoir des nouvelles campagnes, enfin des nouvelles élections, la question ça sera de savoir si évidemment ils veulent tourner leur dos et faire la place à des populistes de gauche, c'est-à-dire des candidats démocrates dans la ligne de soit Gavin Newsom, le gouverneur progressiste de Californie, ou quelqu'un sur la ligne type Bernie Sanders ou Zoran Mamdani, cette ligne hyper très tiers-mondiste qui, je pense qu'on n'en est pas à ce revirement total, mais ce sont des personnes qui effectivement touchent des millions de personnes parce qu'ils ont du contenu très, très clivant, très iconoclaste. Et les algorithmes sont assez friands de ce genre de...
Mais ils trahissent aussi une sorte de... Enfin, j'aurais tendance à penser que, bien sûr, ils ont tous leur délire d'une certaine façon. Enfin, après, il faut se dire aussi que pour nos auditeurs, c'est que le débat américain se fait pas du tout de la même manière que le débat français. La liberté d'expression américaine, c'est pas du tout la même chose. Et évidemment, comparé à la France, où tout est assez... on va dire, on est quand même un vieux peuple, un vieux pays, où tout est assez policé, tout est assez civilisé. D'une certaine façon, là-bas, c'est quand même, on va dire, une explosion de... d'énergie et ça part un petit peu dans tous les sens. Cela étant, encore une fois, je pense que c'est pas... Enfin, il représente forcément quelque chose et il représente aussi une partie du peuple américain et même des républicains américains qui se détournent de Donald Trump. Je regardais justement un petit peu en préparant cette émission les chiffres des soutiens à Donald Trump, mais chez les républicains, on est passé de 90% au tout début du mandat à 75%, ce qui est encore une très large majorité, mais ça fait 15% de moins. Et en réalité, ça, on l'observe un petit peu partout. Et dans le fond, je pense que, encore une fois, ils sont une frange, ils représentent une frange minoritaire et des personnalités assez ubuesques, mais ils traduisent forcément quelque chose aussi de l'électorat de droite qui a pas envie de passer à gauche parce qu'ils supportent pas le wokisme et que justement ils supportent pas non plus ce qu'ont fait les démocrates quand ils étaient au pouvoir, mais qui ont envie d'une droite, quelque part, qui soit différente de la droite trumpiste.
Bon alors, Écoutez, dans ce débat, on a abordé les questions, on a des questions justement de clivage entre les différentes franges du Parti républicain. Je pense qu'on a fait le tour et puis les élections de mid-term nous donneront la réponse à ces questions. Oui. On a abordé quelques sujets de fond, l'isolationnisme sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais juste avant, vous parliez, Nicolas Conquer, de la lutte contre la subversion migratoire. Et de tous les efforts qui ont été mis en place par Trump pour réussir à ses fins. Donc on a vu des recrutements de masse, des moyens faramineux qui ont été débloqués par l'ICE, pour la police de lutte contre les franchissements illégaux de la frontière, même des campagnes parfois hallucinantes. Ça, on pourra y revenir un peu plus tard, c'est anecdotique, mais sur la communication de Trump, on voyait ce visuel publié par Homeland Security, Department of Homeland Security, avec une planche de surf face à la mer et qui disait les États-Unis quand 100 millions de personnes ont été déportées. Donc un tiers de la population. Donc je pense que c'est assez symptomatique d'une certaine roue libre de certaines instances américaines sous Trump, où on a l'impression qu'on a gagné, on est là et on va changer les choses. Mais quand on regarde les chiffres, bah, on regarde sous Bush, on a eu 2 millions d'expulsions. Sous Obama, on a eu entre 2,7 millions à 3,1 millions d'expulsions. Sous Trump 1, on est retombé. Allez, je prends les meilleurs chiffres à chaque fois. À 1 million, donc on a quand même une forte diminution. Sous Joe Biden, on est entre 545 000 et 1,1 million. Et là, actuellement, on n'a pas les chiffres exacts, mais on voit une augmentation des départs volontaires, mais pas forcément une augmentation des arrestations et des déportations. Est-ce que, en français, on dit pas trop déportations.
On dit remigration.
Ouais, remigration, c'est plus simple.
C'est un terme qui est assez connoté. Mais là où c'est intéressant, c'est que d'une part, il y a une question comptable, c'est quelle est la définition d'une expulsion quand elle est menée. Jusqu'à présent, l'expulsé en chef, c'était Barack Obama, c'était 3 millions. Il de fait est, c'était les personnes qu'ils appréhendent à la frontière et qu'ils ne laissaient pas rentrer, ils considèrent ça comme une expulsion. Mais mettons ça de côté, il y a un volontarisme qui a été mis chez Trump et il y a les flux qui ont été stoppés. Donc ça, c'est quand même clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous limitez les flux, désormais, on peut se concentrer sur le stock, c'est-à-dire tous les gens qui sont rentrés de manière illégale. Et il y a des expulsions qui sont menées avec des renforts, parce que c'est des gens qui ne vont pas forcément se laisser expulser. Et ça a un coût réputationnel, un coût de l'image, et parfois un coût en vie humaine. On pourra en revenir. Mais derrière, il y a des dispositions qui ont été mises en place avec des rémigrations volontaires. Et là, comme vous savez dire, globalement, c'est 700 000 expulsions qui ont été faites par ICE et l'autre agence qui est CBP. Et c'est à peu près 1,3 million de personnalités qui se sont dit, bah tiens, le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'ai pas trop envie de passer par l'Alcatraz des alligators, parce que vous en avez pas parlé, mais justement, il y a aussi cette communication qui se fait sur les réseaux et qui, pour moi, est néfaste au bout d'un moment, parce qu'elle fait plaisir à la base, mais globalement, ça marche pas au point de vue de l'opinion générale. C'est-à-dire, vous savez, il y a une espèce d'image un peu sensationnelle des clandestins qui sont rapatriés via des avions et tout ça, et aussi des centres de détention qui ont pour but d'être dissuasifs. Moi, en soi, ça me pose pas de problème, je veux pas une croisière Club Med ou un truc 4 étoiles qui s'était d'ailleurs planté dans les marais à côté des alligators, et donc c'était l'Alcatraz des alligators. Passons. Mais ce qui a poussé les gens à eux-mêmes à se dire, en fait, je vais peut-être retourner dans mon pays d'origine et revenir candidater de manière légale. On le dit toujours, les États-Unis sont une terre d'immigration légale. Donald Trump a épousé deux immigrés légales. La femme de J.D. Vance est une fille d'immigrés qui sont nés de la meilleure voie légale. Et donc, ce que ça pose comme problème, c'est qu'effectivement, c'est une crise dont il a hérité. Et c'est une des raisons et une des promesses de campagne qu'il a souhaité tenir. Ça peut nous choquer, nous on n'est pas habitués à ce que nos politiques fassent ce qu'ils disent, pourquoi ils ont été élus. Il le met et hélas, ça vient aussi avec au mieux ce qu'on pourrait appeler une désobéissance civile de certains groupes activistes, savoir s'ils sont financés ou non, de gauche, d'extrême gauche, démocrate, voire même de quasi-insurrection qui cherche à entraver le fonctionnement de loi. Et je n'en termine pas là, c'est qu'on a voulu dépeindre ces agents, ces fonctionnaires qui sont prêts à sacrifier leur vie en fait pour la sécurité et pour le respect des lois. On les a souillés de tous les noms, on a voulu lui faire croire que c'était la milice, c'était la Gestapo, la milice de Trump. Ça a été créé au lendemain des attentats du 11 septembre, cette agence, et c'est en rien une action qui, encore une fois, traite au faciès, ni quoi que ce soit, il s'appuie sur des signalements, non, généralement avec une collaboration des États locaux, avec certains qui sont, eux, des états sanctuaires, notamment l'état de Minnesota, dont je parle dans mon livre, parce que c'est l'état dont je suis originaire, sur lesquels ils font le choix de ne pas partager leurs renseignements, ce qui rend l'opération plus compliquée, avec les forces de l'ordre local et les forces fédérales qui sont l'ICE, à plus forte raison que vous avez également ces activistes qui viennent entraver, voire se mettre en danger ou mettre en danger la vie des fonctionnaires de l'ICE.
Alors, Alexandre de Gelsin, je crois que vous avez un avis très pointu sur la question, mais je veux juste justement entamer un peu votre réflexion en vous demandant, Nicolas Conquer, est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait de déclencher ces grandes opérations dans des villes hostiles comme Minneapolis, ça n'a pas nui un petit peu au processus global? Et ce n'était pas plus une punition de Trump infligée à des opposants politiques qui voulaient montrer que, en fait, même malgré le système fédéral, en fait, c'est quand même lui qui était le boss, c'est quand même lui qui dirigeait. On a vu ces grands échanges parfois avec les gouverneurs à la Maison-Blanche où ils s'en prenaient à l'un puis à l'autre en disant non, mais c'est quand même moi qui commande et vous allez appliquer ce que je vous dis d'appliquer. Est-ce que voilà, ça n'a pas été plutôt contre-productif qu'autre chose de rentrer dans cette démarche d'affrontement?
Très brièvement, vous avez beaucoup parlé de ce qui s'est passé au Minnesota. On a très peu entendu ce qui s'est passé en Floride ou en Texas, où au final, il y a eu 10 fois plus d'expulsions et au final, ça s'est passé sans encombre. Effectivement, est-ce qu'il fallait y aller ou non? Est-ce que c'est un signe de renoncement? Ouais. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des gouverneurs démocrates, moi je le sais, mon district, il est rouge, il est républicain, et c'est des gens qui pourraient être favorables, mais je vous cache pas que des rares personnes dans ma famille qui sont républicaines m'ont dit est-ce qu'il a rien de mieux à faire que de venir se soucier de quelques immigrés illégaux somaliens qu'on peut avoir au Minnesota? C'est une question qui peut se poser, mais ça reste une prérogative fédérale et du président que de garantir l'intégrité des frontières et d'assurer les expulsions. Donc il ne peut pas y avoir de ces lois, elles s'appliquent uniquement dans les États républicains et pas démocrates, et c'était en soi pas une punition ou une sanction. Ça a été fait soit à la demande des gouverneurs, soit parce qu'il y a d'autres pouvoirs qui ont été invoqués de manière assez circonscrite et aucunement en vue de faire ça puisse se traduire par évidemment les images qu'on a vues et qui évidemment n'ont plus à personne.
Alexandre de Gelsin, vous aviez écrit à l'époque de Minneapolis un article « Trump, le grand piège de la droite française », et justement, vous trouviez ces opérations massives dans le Minnesota, et on avait même annoncé la Californie à un moment, mais quand même, Trump n'a pas été jusque-là.
Ça a commencé par Washington, qui était très spécifique, mais la Californie, parce que là, il y avait des émeutes immenses.
Oui, c'était en juillet, il me semble.
C'était tout début, il y avait des Marines qui étaient déployés, autrement plus sensationnel, c'était pas que du ice, là, c'était...
Pour revenir sur le sujet...
Quelque part, effectivement, moi, je pense que Donald Trump, encore une fois, je pense que notre objectif à tous, quelque part, en tant que personne conservatrice, identitaire, du camp national en général, c'est évidemment la remigration dans le fond. Ça, je pense que pour le coup, on est tous, peu importe ce qu'on met derrière ce terme, mais globalement, l'idée de remigration peut nous parler. En revanche, donc, je pense que Donald Trump, effectivement, a voulu faire preuve d'une forme de volontarisme là-dessus, mais que malheureusement, comme souvent, il a vraiment très mal fait les choses. Pour faire ça, déjà, il faut lui donner un peu de crédit sur un point, c'est qu'il faut rappeler que Joe Biden, c'est quand même, si je dis pas de bêtises, 11 millions d'entrées illégales en 4 ans. C'est-à-dire, en fait, ça fait 10 000 migrants chaque jour qui traversent la frontière. C'est du délire. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai été à la frontière justement pour un reportage à l'époque chez un média concurrent. Effectivement, là-bas, on voyait, j'ai pas eu de mal à trouver des groupes de migrants qui traversaient la frontière comme ça, des endroits où il n'y avait pas de mur, etc. C'était une situation catastrophique. Maintenant, effectivement, la première question, comme le disait Nicolas Conquer, c'est arrêter le flux. Et ça, pour le coup, Donald Trump a vraiment mis les moyens. Et d'ailleurs, il faut dire que dans les expulsions qui sont comptées et qui sont réalisées aujourd'hui aux États-Unis, la plupart se passent où ? Elles se passent au Texas. Pourquoi au Texas ? Parce que c'est un État qui est rouge et c'est un État qui est au bord de la frontière. Et d'ailleurs, au passage, c'est l'État avec la plus large frontière avec le Mexique. Donc, évidemment, c'est là qu'il y a le plus d'expulsions qui sont réalisées. Sauf que, en fait, c'est plus des refoulements à la frontière que des expulsions. Et on voit que tout se passe bien au Texas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une coopération entre l'État rouge et donc, à côté de ça, l'ICE, la police aux frontières, toutes les deux peuvent coopérer sans aucun problème et ça se passe très bien, grand résultat. Floride, pareil, État républicain, grand résultat aussi. C'est là qu'arrivent notamment des réfugiés de à peu près toute l'Amérique du Sud, ceux qui passent de tous ceux qui viennent de Cuba, par exemple, ceux qui viennent aussi du Venezuela vont souvent en Floride aussi. Enfin, pour le coup, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est très bien fait. Et le résultat, je vais donner d'ailleurs un peu de meilleurs chiffres sur Trump que Nicolas Conquer, je vérifie à l'instant. En fait, c'est 2 millions d'expulsions volontaires, de départs volontaires. C'est-à-dire que c'est énorme, c'est un vrai résultat. Et encore une fois, il y a encore 11 millions d'illégaux sous Biden, donc il y a encore du travail. Mais 2 millions d'expulsions volontaires. À côté de ça, on est à 500 000 expulsions involontaires. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que dans ces 500 000 expulsions involontaires, bah oui, en fait, elles se déroulent majoritairement au Texas, elles se déroulent majoritairement en Floride, elles se déroulent majoritairement dans les États où il y a le plus de migrants qui arrivent directement, qui sont des États républicains, qui justement, où il y a cette coopération. Le problème, c'est que, comme le disait Nicolas Conquer, il y a eu des recrutements massifs, des formations qui ont été réalisées en quelques semaines, et avec une mentalité qui a beaucoup déplu aux Américains, il faut le dire, parce que le soutien à la politique migratoire de Trump est passé en gros de 60% pour, 40% contre, à l'inverse. C'est-à-dire que pour le coup, c'est un revirement dans l'opinion. Aujourd'hui, il y a plus de 40% d'Américains qui sont favorables à la manière dont Donald Trump, justement, gère sa politique migratoire, même si, évidemment, dans le fond, ils sont très majoritairement favorables au fait, eh ben, bien sûr, de rémigrer les clandestins.
Donc en fait, c'est les images qui ont choqué. C'est pas une réalité propre à la politique de Donald Trump, il y a un peu de ça, mais
sauf que le problème, c'est que déjà, les images, ça compte. Parce que Donald Trump, en plus, c'est quelqu'un qui sait très bien communiquer, qui fait ça tout le temps, qui en réalité a fait presque de sa politique un spectacle permanent, un show permanent. C'est quand même quelque chose qui le caractérise particulièrement. Mais pour le coup, pour une raison, on va dire, à peu près inexplicable, théoriquement, ça, tout ça s'est un peu cassé la figure quand il s'agit de l'ICE. Premier point, c'était donc en Californie. En Californie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des émeutes gigantesques, effectivement, avec des voitures cramées, avec des violences contre les policiers. Mais en réalité, ça n'a pas tellement fait basculer l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les types qui étaient en face de l'ICE, qui étaient en face de, justement, toutes les personnes qui étaient présentes pour rétablir l'ordre, en fait, bah, c'était des personnes qui brûlaient des drapeaux américains, qui brandissaient des drapeaux mexicains, qui disaient « je déteste les États-Unis », etc. Et évidemment, dans l'opinion publique, bah oui, c'est normal, ils se comportent plus ou moins comme des ennemis de la nation. À partir de ce moment-là, il faut bien sûr c'est pas un problème de les expulser. Et après, on arrive au Minnesota. Et là, c'est là qu'il y a le plus grand problème, parce que le Minnesota, c'est pas un État où il y a particulièrement un nombre important de migrants. Il y a des Somaliens en bonne partie, mais c'est pas un État qui est connu pour être un État particulièrement récipiendaire d'immigration. Deuxième point, il faut rappeler que c'est quand même l'État de Tim Walz, qui était le colistier de Kamala Harris, donc un vrai opposant à Donald Trump quand même pendant la campagne de 2024. Évidemment, État donc démocrate, aucune coopération. Et on ne sait pas exactement pourquoi, mais Trump s'est laissé entraîner là-dedans, mais en fait, il a mis toute son énergie, toutes ses forces, au point que, à un moment, il envoie justement le patron de l'ICE, justement, dans les rues avec un uniforme militaire, effrayant. Enfin, encore une fois, pas de bonnes images, quoi. Et avec une volonté presque militaire d'imposer l'ordre sur l'immigration là-dessus. Et alors, ce qu'on m'a dit, c'est que moi, pour le coup, sur ce que je disais, j'ai été pas mal critiqué parce qu'on me disait oui, mais dans tous les cas, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dans tous les cas, quand il s'agit de rémigrer, on ne pourra pas faire ça sans dégâts, etc. Moi, je suis d'accord, mais cela étant, il faut quand même mettre en place les conditions pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas de débat. Et là, on s'est retrouvé avec des types qui étaient formés en quelques semaines, donc qui, en réalité, ne savaient pas comment on gérait des situations compliquées, qui, sans doute, auraient été très bien pour appréhender des migrants à la frontière ou autres, des situations plus simples, mais pour les situations compliquées, ils ne savaient pas gérer. Deuxièmement, les États-Unis, c'est un pays qui ne sait pas faire de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a pas du tout la culture depuis un bon bout de temps, en fait, justement, de réussir à gérer ce genre de manifestations et autres, comme on peut en avoir en France, où pour le coup, les CRS, ça fait 30 ans qu'ils passent l'heure du matin au soir à gérer les Antifa, les Black Blocs et compagnie. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout la même expérience. Troisième point, effectivement, aucune coopération entre les services fédéraux et les services de l'État. Et au final, tout ça pour peu de résultats, en réalité. Et Donald Trump, voyant qu'il y a une contradiction en face, met toutes ses forces dans la bataille. Et en fait, finalement, il y a deux morts. Résultat, il y a des arrestations qui sont injustifiées. Des violences policières excessives qui, évidemment, choquent l'opinion américaine. Et le principe, encore une fois, de la remigration, tout à fait d'accord. Le principe, pareil, qu'il n'y ait pas d'exemption pour les États bleus, les États démocrates, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est le résultat. Et le résultat, en réalité, Trump n'allait certainement pas l'obtenir dans le Minnesota. Et d'ailleurs, pour conclure, je conclurai ici, c'est-à-dire que Donald Trump met toutes ses forces dans la bataille, tout le monde le soutient, c'est-à-dire que tous les pro-Trump finalement vont derrière lui en disant que tout ce qu'il fait est absolument génial et qu'il n'y a aucun problème, et 10 jours plus tard, Donald Trump, eh ben, en fait, dit oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des choses qui ont été mal faites, et il recule sur la question en disant on reviendra plus tard, on y retournera.
Juste, effectivement, sur le Minnesota, c'est important de rappeler que c'est l'État qui est démocrate depuis le plus longtemps. Depuis 1984, il vote démocrate systématiquement. Quand Reagan remporte son élection et remporte 49 des 50 États, le Minnesota est le seul qu'il ne remporte pas. Et en ce qui concerne l'immigration, il faut savoir que Minneapolis et Saint-Paul, c'est les villes jumelles, donc c'est la capitale de cet État qu'on appelle Little Mogadiscio. C'est la petite capitale de Somalie, parce que c'est la plus grande ville de Somalie en dehors de Somalie, allez savoir, mais en tout cas il y a 60-70 000 Somaliens qui vivent au Minnesota, et accessoirement, ces déploiements des forces de l'ICE, et notamment ce que je disais tout à l'heure avec Nick Shirley qui va au Minnesota. Donc, c'est cocasse d'une certaine manière que c'est bousculé cet agenda politique, et voire même que ça traduit par une forme de répression qui s'était sans doute pas graduée, mais ils en ont fait vraiment une affaire d'honneur, entre guillemets, une affaire capitale, mais qui ensuite a aussi mobilisé en face une escalade de tensions d'activistes qui ont eu des manières quasi paramilitaires de s'organiser et de faire face à ses forces, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient une responsabilité morale de le faire, mais ça a pu générer ces tensions, et effectivement, c'est catastrophique dans l'opinion. Et vous parlez donc de Greg Bovino, je l'ai aperçu il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs, il cherchait du travail, je lui ai proposé de créer un ICE à la française, et donc il a été mis à la retraite, et à la suite de ça, c'était quelqu'un d'entre guillemets plus rond, Tom Homan, qui, il a la physique de ses idées, mais en tout cas, il est très costaud, il faisait sa jasse sous Barack Obama, il est réputé, et donc il a une approche plus responsable de le faire. C'est important de rappeler que tous ces fonctionnaires de ICE, ils ont des familles aussi, ils sont très exposés, le nombre d'agressions, de violences, de menaces dont ils ont fait l'objet, de doxing, vous savez, où on va révéler là où vous habitez, on va faire pression sur vos familles, a été de manière assez exponentielle. Donc ça montre un peu ce malaise, et encore une fois, la dichotomie entre le fait de vouloir la rémigration et les conséquences et les entraves auxquelles vous allez avoir à faire sur le chemin. Donc c'est particulièrement préoccupant, et je pense que ça nécessite vraiment de se poser la question, est-ce que on a la volonté et la résilience de mettre en place ces politiques, hein. Ça ne se fait pas juste les avoir sur un programme et que ça soit séduisant lors d'une élection.
Très bien, mais écoutez, nous reprendrons ces échanges après un petit bobino.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Alors, chers auditeurs, bonjour à nouveau. Nous sommes de retour sur le Libre Journal de l'Occident sur Radio Courtoisie. Alors, nous échangeons dernièrement sur, juste avant le bobino, sur la politique migratoire de Trump et son impact in fine sur les avis des républicains d'un côté et de l'intégralité de la population américaine sur sa politique en règle générale. Alexandre de Galzin, vous soulignez également que la brutalité par lesquelles, avec laquelle ces politiques ont été menées et l'image que ça a pu renvoyer, ça peut avoir un impact sur les politiques des différents mouvements populistes et patriotes en Europe également.
Oui, en fait, c'est un petit peu ça, toujours le problème, c'est que Donald Trump est quand même pris comme un modèle, bien sûr, en tout cas, était pris au début comme un modèle, parce que, au moment de son élection, c'était tout le monde qui disait « un vent de liberté souffle sur l'Amérique, un vent patriotique souffle sur l'Amérique », et dans le fond, c'est ce que tout le monde a espéré. Et on s'est dit « enfin, il va avoir le pouvoir, il a des deux chambres, tout est possible, il veut mettre en place une politique de remigration, est-ce qu'il va le faire, il veut mettre en place, il a dit qu'il allait être justement America First, c'est ce qu'il va l'être, il a dit qu'il allait augmenter le pouvoir d'achat, est-ce que ça il va l'être, etc. En plus, c'est victoire face à quand même la gauche de Kamala Harris, donc c'est pas une gauche très sérieuse, mais c'était une gauche qui était pas non plus modérée. Et puis, donc, tout le monde s'est plus ou moins en Europe réjoui de la victoire de Donald Trump à droite. Sauf qu'en réalité, beaucoup de gens aussi se sont mis dans le sillon de Donald Trump, dans son sillage, et en fait, se sont retrouvés dans une situation où, à être dans sa roue, eh bien, ils ont dû se défendre, finalement, d'avoir soutenu Donald Trump. Je pense évidemment, exemple très récent, celui de Viktor Orban en Hongrie. Deux semaines avant son élection, Jed Evans fait une apparition effectivement en Hongrie près de Viktor Orban, sauf qu'en réalité cette apparition elle est pas du tout bien prise, et même des analystes hongrois pro-Orban me le disaient, hein, mais cette apparition de Jade Evans elle est pas du tout bien prise. Pourquoi? Parce qu'en réalité eh bien c'est l'image des États-Unis aujourd'hui auprès de l'Occident, on aura l'occasion d'en reparler je pense avec le côté plus géopolitique, mais est dégradée, et même sur la question migratoire le problème c'est qu'en France les images qu'on a, en fait on va pas avoir les chiffres de Donald Trump, ce qui est d'ailleurs dommage hein, sans doute en partie, mais on va pas avoir le nombre de rémigrés, les résultats, etc. On va avoir en bonne partie aussi en tête eh bien, ces deux morts qui sont dues à l'ICE, et je précise, sous Obama par exemple, il y avait eu des morts aussi durant les rémigrations, le fait est que c'était des morts qui étaient des migrants qui mouraient généralement en centre. Il y en a eu je crois une quarantaine sur toutes les rémigrations d'Obama, il y en a eu aussi une quarantaine en seulement un an chez Donald Trump, plus deux morts américains de souche quelque part qui étaient des citoyens américains qui sont décédés dans cette affaire. Encore une fois, des images de violences policières qui évidemment ont fait le tour du monde. Dans le fond, si on dit aux Européens bah, regardez en fait la remigration c'est quoi, c'est Donald Trump qui est responsable de la mort de deux personnes, deux Américains, c'est justement des types qui vont se comporter comme des cow-boys et qui vont justement taper dans la population comme ça, mais évidemment les manifestants en face n'étaient pas du tout étaient encore une fois dans l'illégalité et n'étaient pas du tout forcément des enfants de cœur. Mais cela étant, n'empêche qu'on voit quand même des gens bah, qui se sont fait simplement prendre, taper dessus à la matraque d'une manière qu'on ferait jamais en France. Et en réalité, je pense que l'image de la remigration qui est donnée aujourd'hui par Donald Trump, c'est quelque chose qui, au contraire, peut refroidir un petit peu les patriotes et identitaires européens si on les compare à ce modèle.
Nicolas Conquer, depuis que vous avez écrit votre livre Vers un Trump français, je pense que justement ça fait bien écho à ce que nous dit Alexandre de Galzin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Trump a vécu une romance avec Mélanie qui s'est un peu fanée durant la crise avec le pape. Mais je pense que c'est pas forcément une brouille durable. Trump s'est beaucoup appuyé sur Orban, qui aujourd'hui n'est plus au pouvoir. Trump avait en vue via pas mal d'émissaires plusieurs pays européens dont il essayait de se rapprocher et peut-être de faire une internationale conservatrice.
Réactionnaire,
exactement. Aujourd'hui, est-ce que depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que avec toutes les événements récents qui se sont enchaînés à une vitesse extrêmement rapide. Là, on voit Trump qui annonce plus ou moins vouloir sanctionner l'Espagne pour son non-soutien à sa guerre, pour refuser que les avions américains fassent escale en Espagne, qui annonce qu'il retire des milliers de soldats, 5000 soldats, il me semble, de l'Allemagne. Et que d'autres et le non déploiement d'un bataillon de missiles longue portée en Europe, est-ce qu'aujourd'hui il serait toujours porteur d'afficher le Trumpisme comme un modèle, comme un espoir, comme une inspiration peut-être? Est-ce que les choses ont vraiment changé? Est-ce que quelque chose s'est brisé pour les Européens et
on peut regarder le prisme à travers différents angles. Si on prend le cas de la Hongrie en disant c'est le soutien de Donald Trump qui a fait perdre Orban,
non,
c'est volontairement, je caricature, je simplifie. C'est qu'il faut quand même reconnaître que Viktor Orban, il a eu 4 mandats, c'était la 5e fois qu'il se représentait, et que celui qui le relève, c'est quelqu'un qui est issu de son propre parti, Fidesz, et qui fait que il y a une certaine forme de continuité. Le fait est que oui, je pense qu'on peut se réjouir que les Américains ne soient pas dans une forme d'universalisme et qu'ils cherchent à obtenir des alliés. Ils avaient un pays satellite, un peu laboratoire des idées, qui était la Hongrie. On a vu que effectivement en Allemagne, ça n'a pas suivi malgré les progressions de l'AFD. Il y a eu des forts soutiens, notamment d'Elon Musk à l'époque. Mais typiquement, on regarde là où il y a des revers, mais prochainement il y a des élections au UK avec Réforme qui est quand même plutôt bien lancée et qui a un soutien assez favorable et des fortes proximités avec une ligne entre guillemets identique à ce que serait l'America First, mais pour le UK, évidemment. Je pense qu'il peut y avoir des convergences. Aujourd'hui, si on regarde spécifiquement par rapport à la France, on voit que la posture pro-américaine est beaucoup plus difficile à endosser, alors que on rappelle que de deux anciens présidents que sont François Hollande et Emmanuel Macron sont des young leaders de la French American Foundation et que tout, je sais pas, quelque chose que j'avais dit envie de mettre en avant, mais il y aurait la bonne vassalisation auprès de l'anti-américanisme, enfin de l'américanisme et la mauvaise.
Mais j'ai l'impression que même vous avez mis de l'eau dans votre vin, Nicolas Conquer, parce que évidemment on se parlait régulièrement à l'époque de la campagne de Donald Trump. J'ai l'impression que vous êtes devenu même vous-même plus nuancé sur le sujet, ce qui m'étonne quelque part. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voyez aussi qu'il y a des failles et qu'il y a des faiblesses aujourd'hui au trumpisme.
Entre temps, j'ai produit un livre et j'ai quand même cherché à voir ce qui pourrait être reproductible de ce qui ne l'est pas. Je ne milite pas pour un simple mimétisme ou un copier-coller. C'est une question où j'interroge en vue de voir évidemment s'il y a d'autres personnalités qui seraient des incarnations qui pourraient plus se fondre dans notre culture, nos institutions, notre histoire et notre manière de faire de la politique. Donc effectivement, moi, je ne peux pas me réjouir de certaines outrances du trumpisme qui pourraient affecter le clan patriote, que ce soit en France ou en Europe, d'une certaine manière, même la campagne, plutôt que de regarder de manière prospective, de regarder ce qui a été fait au Canada avec ce running gag du 51e État, du gouverneur du Canada. Moi, j'avais beaucoup de sympathie et d'affinité pour la personnalité qui est Pierre Poilievre, personnage donc, du Parti conservateur canadien, et qui s'est laminé parce qu'il y a eu une résurgence de l'hydre progressiste qui a élu donc Marc Carney, qui était absolument pas du tout favori dans les sondages, et parce qu'il y a eu une espèce de rejet du conservatisme à travers la figure que
était par l'alliance Poilievre-Trump, enfin en tout cas...
Voilà, c'est ça, cet axe-là a pu repousser. Maintenant, on a voulu vous dire, encore une fois, c'est pour reboucler, on disait, bah, tiens, c'est l'effet Milley-Trump de la défaite d'Orban, ce qui est encore une fois une version très caricaturale d'éditorialiste un peu fatigué, alors qu'il y a d'autres causes plus profondes, et qu'on a des succès dans quelques petits états satellites européens dans lesquels il y a Fico en Croatie et ailleurs, mais je pense que nous-mêmes, quand même on ne voudrait pas en marcher dans les pas du trumpisme, mais de pouvoir militer pour un autre regard plus apaisé sur l'atlantisme, pas de la vassalisation, pas de la confrontation, mais juste de réaffirmer cette troisième voie qui doit parler, alors, ceux qui étaient... Il y avait le gaullisme cher à leur cœur, mais une certaine manière de faire porter la voix de la France là où elle doit être. Là, on voit qu'on est très dilué en fait, dans cette coopération européenne, on n'arrive pas à prendre notre place dans la force d'appoint qu'on pourrait apporter dans la résolution du conflit en Iran et dans le golfe arabo-persique. Je pense qu'il y a une volonté un peu trop systématique de vouloir se construire en opposition au trumpisme.
Alors justement, Alexandre de Galzin, est-ce que ce qui fait que l'OTAN tient encore aujourd'hui, justement, est-ce que cet atlantisme tient encore aujourd'hui, c'est pas simplement l'incapacité des Européens à s'organiser pour créer une défense commune, pour créer une diplomatie commune on voit cette volonté en fait de faire front contre le trumpisme, mais à chaque fois, même quand le président Macron met des rébans et a un discours dur et ferme, face aux attaques de Donald Trump, in fine, on cherche toujours à ne pas se froisser trop avec lui, on cherche toujours à ne pas trop se le mettre à dos, parce qu'on sait jamais, on a quand même des intérêts économiques communs.
En fait, je dirais que c'est ça, et l'inertie aussi, c'est-à-dire que tout simplement, faut pas oublier que, encore une fois, tous les pays scandinaves, que l'Allemagne, que la Pologne sont armés très largement par les États-Unis, que en Italie, il y a je sais plus combien de bases américaines qui sont présentes sur le sol, mais enfin même dans toute l'Europe en général, ça fait quand même 80 ans qu'on vit dans la queue de comète du plan Marshall et puis justement aussi du débarquement américain et du parapluie américain contre le soviétisme. Donc forcément, on n'est pas tout à fait sorti dans la logique des blocs de l'Est et de l'Ouest. Ça, c'est évident. D'un autre côté, moi, j'aurais tendance à penser que peut-être, en fait, je rejoins Nicolas Conquer sur un point qui est que on a l'impression qu'il y a la bonne vassalisation américaine et la mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 20 ans, tout le monde nous a expliqué qu'en fait les États-Unis c'était absolument génial parce que en réalité des personnalités même qu'on pourrait dire aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Raphaël Glucksmann, en fait tous ces gens-là qui finalement n'ont fait que prôner l'atlantisme pendant des décennies, en réalité prenait un atlantisme qui n'était pas celui de Donald Trump, parce que Donald Trump c'est le méchant, donc du coup lui il faut pas être atlantiste avec lui, on peut être atlantiste qu'avec les démocrates ou avec les républicains modérés. Et en réalité, moi je pense que une vertu de Donald Trump pour l'Europe, c'est effectivement de nous montrer que l'atlantisme est une impasse et que, en tout cas dans l'état actuel de la situation, et que effectivement il faut que l'Europe se reprenne en main d'une certaine façon. Mais l'Europe, ça veut pas forcément dire l'Union Européenne, hein, je précise quand même pour les auditeurs, il y a plein de manières d'envisager l'Europe, ne serait-ce qu'en tant que continent, ne serait-ce qu'en termes de coopération, ça veut pas dire encore une fois être unis sous un gouvernement fédéral européen. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que on comprend maintenant la nécessité de vraiment s'émanciper de la tutelle américaine, de plus être dans l'attente de qu'on nous prévienne qu'il y aura une offensive qui va être menée à tel endroit, que les États-Unis aillent discuter avec la Russie sans prévenir les Européens, que même d'un autre côté, on peut déclencher un conflit en Iran en coopération avec Israël sans prévenir personne. D'une certaine façon, je pense que c'est le moment aussi. Donald Trump est involontairement salutaire en ce point, en ce sens qu'il a tué, enfin qu'il est en train de tuer l'Occident. Je ne sais pas s'il arrivera à le terminer, si vous me passez l'expression, mais enfin, il lui met de rudes coups. On parle beaucoup du discours de J.D. Vance à Munich, bien sûr, très rapidement après la prise de pouvoir de Donald Trump. Le discours de J.D. Vance à Munich, en réalité, il a été vu de manière très ambivalente. C'est-à-dire que beaucoup de patriotes européens ont dit « Ah la vache, c'est vrai que c'est super, quelqu'un qui prend enfin en compte la liberté, le conservatisme européen, etc. » D'un autre côté, il y en a beaucoup d'autres, et peut-être à raison, qui se sont dit « Bah oui, mais en réalité, ce qu'essaie de faire Donald Trump, c'est simplement là où il y avait une sorte de vassalisation du système, c'est-à-dire de l'UMPS au sens européen, là où il y avait ce centre élargi qui était vassalisé aux démocrates et à la droite molle américaine. Désormais, l'objectif de Donald Trump, ça semble quand même être de vouloir mettre sous sa coupe tout le corps national européen. » Et justement, pour le coup, moi je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous sur la question de Mélanie, dans le sens où je pense que, évidemment, c'est impossible, c'est illusoire de dire qu'on va se couper des États-Unis du jour au lendemain. En revanche, je pense vraiment que ces derniers mois, on commence à assister à une sorte de réveil. Je vois par exemple des personnalités comme Marine Le Pen et Jordan Bardella en France, mais même, en soi, il y en a d'autres, un petit peu dans toute l'Europe, Giorgia Meloni bien sûr, mais même dans tous les pays européens, on peut voir quand même des critiques qui commencent à émerger, de l'idée d'être dans la roue de Donald Trump, et je pense qu'au bout d'un moment, justement, ce divorce atlantiste pourra être peut-être prononcé un jour. Encore une fois, comme vous le dites, ça demande qu'on arrive à réveiller un petit peu une sorte de solidarité entre pays européens.
Moi, j'ai à cœur l'union entre les couples, et je suis pas pour acter un divorce. J'ai notamment un chapitre sur lequel je parle des 250 ans de Je t'aime toi non plus, qui sont donc cette année où on fête le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, et sur lequel on a eu des relations qui ont été parfois cordiales, parfois tumultueuses, et parfois qui ont été fortement tendues. Et en ce qui concerne Trump et l'impact que ça a sur l'Europe, mais à plus forte raison sur les nations européennes, je pense que c'est vraiment important de le voir comme une opportunité et comme un catalyseur de ces nations européennes. Notamment en ce qui est la capacité d'assurer nous-mêmes notre propre souveraineté et notre propre défense. On nous avait dit lors de son premier mandat, Trump, il va sortir de manière unilatérale, il va faire voler en éclats l'OTAN. Je vous rappelle que c'est même d'ailleurs Emmanuel Macron qui à l'époque, c'est un contexte avant de l'invasion de l'Ukraine, qui nous dit l'OTAN est en état de mort cérébrale. Une chose est sûre, c'est que à la suite de son volontarisme et de la guerre en Ukraine aussi, si vous voulez, mais en tout cas, davantage d'États ont financé l'engagement du budget militaire de l'OTAN. Aujourd'hui, il y a des tensions de dire, mais tiens, est-ce qu'on pourrait en sortir ? Je vous fais un divulgachage, comme on dit en québécois, c'est pas quelque chose qui se négocie de manière unilatérale, c'est pas une volonté, c'est pas le fait du prince. Donald Trump ne peut pas se désengager comme ça, il y a des intérêts qui sont trop importants. On parle de ces mesures toutefois symbolique, mais le retrait de 5000 soldats en Allemagne, il y en a 35 000. C'est une base qui est à la fois bénéfique pour le tissu économique et le parapluie allemand que pour la capacité de projection sur le Moyen-Orient. Donc en soi, les intérêts sont liés. Que cela puisse renforcer et laisser émerger une perspective d'Europe de la défense, bon, c'est un projet qui est vieux comme le monde, hein. Je veux pas être défaitiste par rapport à ça, mais je pense que c'est surtout capital pour nous qu'on arrive à défendre et assurer notre propre souveraineté, avoir un appareil, un mini complexe militaire industriel et qu'on soit encore une fois pas inféodé aux intérêts des Allemands et de leur puissance industrielle.
Intérêts des Américains, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi je prends sur la question de l'armement européen, vous voyez justement tous les pays nordiques ou par exemple tout même la Pologne, etc., qui aujourd'hui préfèrent le F-35 américain au Rafale français. Bah forcément, en fait, ça pose. Enfin, il y a quand même des conflits d'intérêts sur certains points.
Non, j'entends, effectivement. D'autant plus ceux qui étaient le plus souvent critiqués, ou du moins un peu dans le viseur, ou dans le giron des États-Unis, avec le Danemark et le Groenland dernièrement. À la suite de ça, le Danemark, peut-être, pour s'attirer la bonne grâce, a acheté des équipements militaires. Mais je veux surtout reposer, nous, la question en tant que nous, ce qu'on peut faire, en disant que pourquoi aller acheter notre armement léger d'infanterie, ou vous savez, des genres de choses ça, comme ça, auprès des Allemands, des Belges, alors qu'on aurait cette capacité à assumer nous-mêmes cette souveraineté-là, et plutôt que de devenir une grande usine de services, de réindustrialiser, que ce soit des usines et également aussi de l'armement, c'est quelque chose qui nous vaut d'être reconnu dans le monde. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi ça qui fera que, sur ces composantes, que ce soit la défense, mais que sur d'autres chantiers qui vont être vraiment la révolution majeure du siècle à venir, on le voit là sur l'intelligence artificielle, on est vraiment à la traîne par rapport à ça, on a trop de réglementations, on veut mutualiser, mais on a du mal à définir notre propre feuille de route. et qui aussi nous entrave. On voit qu'on est un peu une colonie numérique des États-Unis parce qu'on ne donne pas réellement les moyens de développer nos propres solutions, trop tenues par la réglementation qui nous empêche de débloquer notre... On est réputé, on est les champions du monde de la conformité et de la régulation, ce qui en soi entrave le développement de nos propres plateformes.
Ce qui a des aspects positifs aussi par moment, mais oui, effectivement, sur l'innovation, c'est vrai qu'en tout cas, ça freine, on va dire, l'envahissement de nos marchés parfois par des puissances étrangères. D'un autre côté, c'est sûr que ça freine l'innovation. Mais encore une fois, je vous dis, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quelque part comment Donald Trump peut continuer. En fait, Donald Trump, pour moi, peut être le vecteur d'émancipation de l'Europe des États-Unis, mais ça voudrait dire, encore une fois, une forme de divorce. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand il y a l'offensive contre le Groenland, ou même, on peut parler des tarifs douaniers, c'est-à-dire que cette fameuse histoire, bon, alors qu'ils ont été tous annulés maintenant, mais cette fameuse histoire de 15% de tarifs douaniers, décidée en plus par von der Leyen, qui va sans mandat pour aller négocier ça sans contrepartie à Washington, personne n'a trop compris ce qui s'était passé à ce moment-là. En réalité, tout ça ne fait que, élargir l'Atlantique.
Bon alors, écoutez, on a parlé en ce début d'émission de début de fracture avec certaines franges du trumpisme et notamment des isolationnistes. On a parlé alliance entre les États-Unis et l'Europe, donc des vieilles alliances, on parle de 250 ans, de vieilles alliances historiques, d'où les États-Unis tirent leur ADN. Et on a parlé évidemment des midterms. Et quelque chose qui va vraiment peser pour ces midterms, c'est la guerre en Iran. Alors, j'ai deux questions, Nicolas Conquer, sur ça. Tout d'abord, est-ce que Trump, qui a toujours eu une amitié particulière envers Netanyahou, a voulu soutenir son allié historique face à une menace existentielle réelle, et ou alors est-ce que c'est vraiment une initiative américaine propre parce que Donald Trump a été touché par la répression sanglante des manifestations en Iran, et deuxièmement, est-ce que aujourd'hui Trump est capable de mettre un terme à cette guerre en sortant la tête haute, ou en tout cas en n'en sortant pas comme un grand perdant de ce conflit, et est-ce qu'il est capable de contrôler Netanyahou, qui lui ne semble pas du tout vouloir terminer cette guerre aujourd'hui?
La première chose, c'est que c'est évidemment une opération qui est conjointe, c'est une coalition israélo-américaine, donc ils sont dans ce même bateau, dans cette même galère, dirait d'aucuns. En ce qui concerne vraiment le point névralgique de la question, qui est de savoir en quoi Donald Trump agirait au bon vouloir de Netanyahou, je pense que c'est important de regarder deux choses. La première, c'est en juillet mais de 2025, c'est la guerre des 12 jours. C'est Donald Trump qui, avec la neutralisation des sites nucléaires militaires iraniens, déclenche la fin de cette guerre. Ordonne la fin de cette guerre. Et c'est pas poursuivi. Ensuite, en ce qui concerne cette guerre en Iran, il y a eu un premier cessez-le-feu qui a été négocié début avril, à la suite de quoi les échanges de bombes, enfin les bombes ont cessé de tomber sur l'Iran. Il y a eu une guerre qui a été poursuivie par Israël sur les Hezbollah au Liban.
C'est le feu critiquable. Le lendemain du cessez-le-feu, Israël.
Bien sûr,
a mené
mais bon, ça faisait pas partie de ce qui était, de ce qui était, de ce qui était négocié. Il y avait une vraie volonté de pouvoir affaiblir les proxys de l'Iran. Rappelons-le que ces groupes terroristes, ils agissent parce qu'ils sont financés par l'Iran et ils contribuent à propager le terrorisme et l'instabilité dans la région. Donc il y a, selon moi, une vraie volonté de pouvoir dire, certes, il faut pouvoir finir le job, et ça je pense que c'est une volonté israélienne et de beaucoup de dites interventionnistes ou lobby pro-israélien américain qui veulent finir le job, à dessein, je pense, hein, parce que c'est pas une intervention qu'on a envie de faire tous les 6 mois ou toutes les générations. Ça serait bien que ni vous, ni vos propres enfants n'aient à être confrontés à une situation identique à celle qu'on est en train de vivre, mais qu'elle soit neutralisée de manière pérenne. Donc je pense pas qu'il y ait eu de pression ou de pouvoir un peu caché occulte qui arriverait à dicter la conduite de Donald Trump en matière de politique extérieure. Ça c'est le premier point, et ensuite rapidement sur les enjeux et les répercussions que ça peut avoir sur ces, tant les élections de mi-mandat, mais j'ai pas envie d'être uniquement cynique, j'ai envie de vraiment voir sur le temps long, parce que c'est vraiment ça dont il est question. Évidemment l'enjeu, ça doit faire 60 jours, et donc Donald Trump a décrété que la guerre était terminée, parce que depuis le cessez-le-feu, Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de bombe, il y a ce détroit qui se fait après l'Epic Fury, il y a le Economic Fury, et désormais ils veulent également sécuriser
opération
le détroit.
Liberté,
opération ouais. Liberté. On voit qu'effectivement, le régime iranien est plus que pris en tenaille, et ils ont abattu leur dernière carte qui était le contrôle de ce détroit d'Hormuz, contrôle plutôt partiel, mais qui doit nous dire qu'effectivement, il y a cette pression et qu'il y a des répercussions considérables, systémiques, pour tout le monde, mais notamment les pays d'Asie du Sud-Est et notamment la Chine, qui eux sont les principaux bénéficiaires de ce qui vient en provenance du détroit d'Hormuz, et qui nous rappelle qu'il y a cette audace, et elle peut sans doute payer de manière plus pérenne. Donc est-ce que ça aura immédiatement des conséquences, répercussions concrètes à la pompe à l'horizon novembre prochain pour les élections du mandat? Je ne sais pas, mais si on a voulu dire que c'est la guerre de Trump, très bien, mais en tout cas il faudra aussi lui attribuer le crédit, si au final il y a un renversement de régime et la fin de cette théocratie qui a promis la mort à Israël, la mort à l'Iran et la mort aux États-Unis depuis sa création.
Alexandre de Gelsin, la semaine dernière, il me semble, pour rester sur le même sujet, hein, le secrétaire d'État à la guerre était devant le Congrès pour se faire sermonner. Et notamment, on l'a vu par des élus républicains. Donc, est-ce que pour poursuivre sur la dynamique des échanges qu'on a, ça ne démontre pas une fracture qui risque d'être dommageable pour les midterms? Est-ce que d'ici là, on parle en effet d'une échéance à 6 mois, est-ce que d'ici là les choses peuvent s'arranger? Est-ce que des négociations menées avec brio, bon, pour l'instant ça semble mal parti, mais pourraient donner à Donald Trump au moins le bénéfice du doute sur cette guerre? Ou est-ce que vraiment c'est un coup définitif à son
déjà,
aura dans le pays?
Sur ce que disait Nicolas Conquer, effectivement, il n'y a pas de. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de puissance occulte qui ait décidé Donald Trump. En revanche, ce qui est certain, c'est que Donald Trump a été embarqué dans la guerre par Netanyahou. Ça, c'est quelque chose qui est certain. C'est-à-dire que Netanyahou a expliqué. Bon, il y a un très bon article du New York Times qui relate un petit peu tout ça. Pour faire simple dans l'ordre, Netanyahou dit qu'il va frapper l'Iran dans le but de décapiter le régime. Les services israéliens et américains apprennent à Trump que la réplique se fera donc sur les bases américaines et sur les proxys américains dans la région, c'est-à-dire notamment le Bahreïn, le Koweït, etc. Il y a une base, je crois, en Irak, dans toute cette région-là. Et effectivement, à ce moment-là, Donald Trump dit à ce moment-là, je joins mon offensive à celle d'Israël. Et à ce moment-là, il se jette dedans. Le problème, c'est que en réalité, ça reste une guerre qui est quand même déclenchée par Israël dans les intérêts d'Israël. Et dans le fond, l'intérêt américain derrière, il n'est pas vraiment là. C'est-à-dire que quelque part, on a l'impression que c'est un petit peu comme la situation... Il y a un petit côté vénézuélien dans le sens où Donald Trump a l'air de se dire « Bon, je me lance dans une situation, mais il faut que je trouve d'autres possibilités positives, d'autres conséquences positives à mettre en place. » Et notamment cette question donc du détroit d'Hormuz, de jouer sur les prix du pétrole. Là, on voit que je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui s'est retirée de l'OPEP récemment. Donc voilà, et évidemment qu'il y a des conséquences sans doute qui pourront être positives d'une façon ou d'une autre, soit dans la guerre commerciale contre la Chine, soit côté américain. En revanche, ce qui est certain, c'est que la guerre n'est pas faite pour les Américains, et c'est pas une guerre non plus qui est faite pour la liberté. C'est-à-dire que Donald Trump disait au début, MIGA, make Iran great again, sauvons l'Iran des Mollahs, etc., décapitons le régime, et puis après, finalement, l'objectif, ça devient great victory, on a débloqué le détroit d'Hormuz, qui était déjà débloqué avant la guerre. Donc, en réalité, et puis ça devient aussi cet autre point, c'est que je rappelle que, juste avant le début de la guerre, Donald Trump est quand même en négociation avec les Iraniens en Oman. Dans le sultanat d'Oman, c'est-à-dire qu'en fait, on en est où avant le début de la guerre, c'est que en fait, la conclusion ce serait que arrêt de l'enrichissement du nucléaire iranien, enfin retour sur un nouvel accord sur le nucléaire iranien, c'est justement enfin d'autres plans comme ça, etc. En réalité, le résultat des négociations risque, pour l'instant, de ce qui se dit, d'être moins bon pour les États-Unis qu'avant le début du conflit. Entre-temps, vous aviez fait d'ailleurs une chronique à ce sujet, je rappelle, sur la question libanaise, c'est que en réalité, peut-être qu'il y a un cessez-le-feu, mais il y a déjà 1,5 million de déplacés au Liban. De même, peut-être que effectivement, on arrivera à une paix entre l'Iran et les États-Unis. Mais dans le fond, il y a déjà eu des milliers de morts en Iran. Il y a déjà eu le pays qui a été particulièrement fragilisé. Et dans le fond, tout le monde a envie que, évidemment, ce qu'on appelle le régime des mollahs, mais dans le fond, en réalité, la théocratie islamiste, qui est au pouvoir en Iran, évidemment qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il parte. Le peuple iranien lui-même en a envie dans sa majorité, pas dans son intégralité, mais au moins dans sa majorité. Donc forcément, on a envie d'y arriver. Sauf qu'on a l'impression que les États-Unis apprennent pas forcément de leurs erreurs. Évidemment, on n'impose pas la démocratie avec les bombes. Et puis, à côté de ça, quels bénéfices les Américains vont en retirer ? Bah, pour l'instant, on le voit pas. On sait que la guerre a coûté au moins 25 milliards pour le moment. Et puis, à côté de ça, on voit aussi que ça, encore une fois, accentuer encore un petit peu le divorce entre Américains et Européens. Européens qui, pour le coup, sont les premiers, à subir justement les conséquences de ce conflit sans avoir été prévenus à nouveau.
Alors Nicolas Conquer, du coup, sur ce conflit en Iran, vous pensez vraiment que ça sera le point de bascule pour les midterms où on n'en est pas là et, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment bread and butter. Et
oui, c'est ça. Enfin, déjà, les cycles d'actualité se succèdent. Ensuite, la politique internationale extérieure n'est pas une des priorités. Même parmi les top 10 des priorités américaines ne figure pas dans ce top 10-là. Le vrai enjeu est les répercussions que ça va pouvoir avoir. Et effectivement, ça ne va pas être un conflit à rallonge. Rappelons que là, on peut dire oui, Trump a son style, il contourne le Congrès. Ça avait été fait, alors je dis pas que c'est pas parce que ça a été fait pas dans le passé qu'il faut le refaire, mais par Reagan en 88 au Liban, que ça a été fait par Bill Clinton au Kosovo, que ça a été fait par Barack Obama qui a mené une guerre pendant 7 mois au Libye en comptant dans le Congrès. Là, Donald Trump semble faire les choses en règle. Il peut y avoir une nouvelle opération militaire qui va se déclencher sans doute dans les jours à venir. On verra si cela... pour venir, il y a une strangulation économique, encore une fois, et c'est parfois mal compris quand je dis ça. Je ne veux pas que le peuple iranien souffre. Je veux que, effectivement, ça puisse contribuer à ce qu'il y ait un soulèvement de différentes forces et qu'il puisse être appuyé dans cette forme d'insurrection. Mais il faut que le seuil de douleur pour les responsables, les gouvernants, et peut-être même ceux qui font partie de l'armée régulière, puissent se dire, mais en fait, le jeu, on ne vaut plus la chandelle. C'est quelque chose qui est terminé, donc qu'ils puissent les amener à renverser leur régime. Donc, effectivement, si jamais ça finissait par une issue favorable, ce dont je pense que décemment, on doit pouvoir se souhaiter, à plus forte raison en tant que Français, comme on était marqué dans notre chair, dans le sang, par tant l'Iran que par leur proxy, par le terrorisme islamique qu'ils ont financé, eh bien, ça peut être quelque chose qui va donner des dividendes sur lesquels on pourra tous capitaliser. Et accessoirement, je pense qu'il y a un reproche qu'on pourrait éviter de faire aux États-Unis, c'est qu'ils ne le font pas uniquement par philanthropisme. Et c'est peut-être cynique de dire ça, mais je pense que, d'ailleurs, quand vous avez d'ailleurs le fils du chat, Reza Pahlavi, qui vous dit... on sera le plus grand marché pour les États-Unis. Enfin, c'est apporté comme ça. Donc, moi, ça me gêne. Mais de fait, je pense qu'il y a un intérêt bien compris. Vous avez parlé du plan Marshall tout à l'heure.
Et on pourrait même évoquer la même situation de manière générale aussi sur Gaza, avec la Gaza Bank, qui pourrait être tournée en Riviera. On peut même penser à la question ukrainienne, où en fait, Donald Trump voulait aussi pouvoir mettre la main en échange de la résolution du conflit sur toutes les terres rares ukrainiennes qui pourraient être rendues disponibles. C'est sûr que les États-Unis ne font pas ça par philanthropisme, qu'ils trouvent toujours leur intérêt. Après, encore une fois, j'ai pas l'impression non plus que ce soit de la grande réelle politique que d'attaquer l'Iran. C'est-à-dire que, pour le coup, il y a comme une forme de, je sais pas si le terme est vraiment adapté, mais de néo-néoconservatisme chez Trump, qui, justement, a, notamment avec son board of peace aussi, on a l'impression qu'il a envie de s'ingérer aussi dans les affaires du monde, et que, en fait, il a envie de montrer que les États-Unis peuvent faire la loi partout où ils veulent dans le monde.
Alors là, je dois vraiment prendre le contre-pied là-dessus, parce que c'était bien théorisé dans le document de sécurité stratégique nationale là, qui a été publié fin décembre, dans lequel il y a cette logique de dire, voilà, on en a fini avec cette logique des guerres sans fin. On a tiré des enseignements des début des années 2000. Mais je vais terminer par là, parce que c'est intéressant.
Comme il avait déjà dit dans Cripple d'America, son livre de campagne.
C'est ça, il y a une vraie volonté de se dire, là, ce qui est en train d'être mené, il l'a souhaité à ce que, on l'a vu, les bombardements sont terminés début avril, ça faisait à peine 40 jours. On n'est pas du tout dans une guerre au long cours, et l'objectif étant, je pense que la définition de va-t-en-guerre ou d'interventionniste ne s'applique pas à Trump. Il y a, je le disais tout à l'heure, un opportunisme géopolitique, il a ses intérêts, si je prends le cas du Venezuela, et dans une moindre mesure du Groenland, mais on ne va pas aller dans cette direction, mais qui est vraiment de conforter les intérêts de la puissance américaine dans son jardin, donc de l'Alaska à la Terre de Feu. Et en ce qui concerne l'Iran, en fait, accessoirement, je fais une parenthèse historique, c'est que l'ensemble des présidents depuis la création de la République islamique d'Iran ont demandé à ce que ce régime tombe, mais personne n'avait l'audace de pouvoir aller jusqu'à là-bas. Et vous parlez du board of peace, c'est pas un board of war, c'est au contraire le board de la paix qui a vocation à reconstruire, refinancer la reconstruction de la bande de Gaza. Je pense que Donald Trump puisse s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus long, peut-être beaucoup plus transformatif, dans l'objectif de créer une nouvelle Pax Americana qui, à travers effectivement une intervention très ciblée et pas sur le temps long, pas un bourbier, parce qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de boots on the ground, il y a une volonté de, voilà, de pouvoir mettre hors d'état de nuire cette régime fanatisé, cette théocratie qui a bombardé tous les pays voisins de la région.
Mais encore une fois, c'est là que, enfin, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on voit absolument que Trump n'a pas envie de se relancer dans un Vietnam. On sent que l'Afghanistan d'ailleurs est une sorte de traumatisme. Il voit quel impact ça a eu aussi sur le mandat, sur l'opinion publique, sur Biden aussi. Forcément, il veut éviter ça à tout prix. En revanche, il y a aussi ce côté où ça l'empêche pas, encore une fois, de se jeter, et on pense notamment à l'Iran dans cette situation, dans des conflits où, encore une fois, les intérêts américains ne sont pas forcément particulièrement présents directement, au moins. Et ensuite, il est... comment dire, tout le monde a envie que le régime tombe, bien sûr, mais d'une certaine façon, ça reste, même si la guerre ne dure que 40 jours, ça reste de l'interventionnisme et ça reste comme une guerre. Alors, une opération militaire spéciale, si on veut, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est pour ça que je dis un néo-néoconservatisme, dans le sens où, évidemment, que je pense pas que... Mais c'est justement là, pardon, qu'il y a une dichotomie, et j'en finis là. C'est qu'en réalité, Donald Trump dit qu'il veut changer le régime iranien, qu'il veut changer la situation là-bas, mais on a l'impression qu'il a pas envie d'aller jusqu'au bout. Ce pourquoi il faudrait envoyer, comme vous dites, boots on the ground, il faudrait envoyer les GIs et puis tout ce qui va avec.
On parle de 200 à 300 000 personnes quand même, donc ce serait...
Oui, mais ça c'était en 2003 et moi je ne m'y étais pas pour ça.
Non, bien sûr. Mais justement la question qui se pose en réalité, c'est comment... Enfin, les Américains ont aussi appris qu'on ne peut pas changer un régime avec les bombes, théoriquement, et d'un autre côté, il dit, bon, je veux changer le régime avec les bombes, mais sans mettre d'hommes sur le terrain, parce qu'en réalité, ça risque de reproduire la situation afghane, irakienne, etc. Je ne sais pas comment c'est possible de sortir de ce paradoxe.
Oui, alors là, effectivement, qu'il puisse y avoir un changement de régime, et ça c'est une chose, et il y a une certaine forme de volontarisme de faire la pression pour qu'il puisse être défié en interne. Rappelons-le qu'il n'y a pas du tout de volonté d'exporter la démocratie. Hein. Compte tenu de l'histoire, du mode de fonctionnement, des différentes ethnies qu'il y a en Iran, c'est pas du tout la logique et le schéma qui est emprunté. En revanche... Il y a ces buts de guerre qui ont été définis, qui étaient initialement des buts militaires, oui, mais si, donc l'aviation, la marine, le programme balistique, les drones, et c'est ce qui fait que désormais ce blocus du détroit d'Hormuz était possible, parce que c'est plus compliqué lorsque vous faites face à une marine militaire. Et donc, effectivement, ce qui est moins mentionné, mais c'est évidemment remettre la main sur les stocks d'uranium enrichi, 440 kilos, c'est l'équivalent de 11 bombes nucléaires. S'il y avait un vecteur, on a vu qu'ils désormais pouvaient cibler jusqu'à l'Europe, jusqu'à Chypre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant. La menace peut être exagérée.
Jesse Gabbard, oui, avait quand même dit juste avant le début de la guerre, donc la directrice nationale du renseignement américain, que c'était largement surévalué et qu'il n'y avait pas de capacité nucléaire actuellement.
C'est pour ça que Joey Kent, d'ailleurs, qui était responsable du terrorisme, lui aussi a démissionné. C'est parce qu'il disait en fait qu'il n'y a pas de menace en réalité israélienne, iranienne sur les États-Unis et même sur l'Europe en soi.
Par la suite, là, ils ont vu, là, c'est important de le rappeler, hein, parce qu'initialement, on se disait, ils sont incapables d'envoyer des roquettes au-delà des pays voisins. Ils ont visé quand même jusqu'à la base de Diego Garcia, qui était à quasiment 2500-3000 km. Ils n'ont pas atteint la base, mais quand même, ça montre cette détermination et que ça viserait désormais, on le voit. Je ne cherche pas du tout à être marchand de peur, mais il faut être assez lucide par rapport à ça. Et que je reviens juste sur le fait de dire ils ne nous ont pas concertés au début de cette opération. Je veux dire, au bout d'un moment, il en va de la stabilité, de l'économie mondiale aussi. Et donc, je pense qu'on devrait prêter main forte, pas juste parce qu'on est des supplétifs et on répond aux doigts au doigt et à la baguette, mais c'est juste de se dire là aujourd'hui, nous on a des expertises notamment dans la destruction de mines, la sécurisation du détroit d'Hormuz, c'est vraiment quelque chose dont on pourrait vraiment tirer des mérites, des lauriers et de vraiment pouvoir peser sur la scène internationale. Donc,
mais il aurait fallu le concerter avant alors.
Oui, mais ça crée d'inertie, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un effet de surprise. Là, l'éradication des 40 leaders et du guide suprême, ça a pris tout le monde de court et eux-mêmes, les premiers, les mollahs, ils n'ont pas vu venir. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Mais c'est que, on a vu qu'il y a beaucoup de diplomatie du verbe, notamment, on voit beaucoup d'anciens généraux et beaucoup d'ambassadeurs faire le tour des plateaux pour nous dire à quel point ça ne marche pas. Mais ceux qui sont au Quai d'Orsay ou ceux qui sont à l'état-major sont à peu près un peu sur cette même ligne-là qui pose problème. Au bout d'un moment, il faut aussi ce pragmatisme et qu'évidemment ça peut nous déplaire, on a l'impression d'être relégué, mais je pense que là il y a un courant dans lequel on peut s'embarquer. Encore une fois, je veux pas de vassalisation, mais je dis juste qu'on a à mon avis une valeur ajoutée, un savoir-faire, une expertise, notamment dans ce qui était donc la capacité à déminer en mer sur lequel on pourrait arriver à se replacer, replacer la France en, dans, au concert des, enfin, au rang des grandes puissances.
Oui, il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission. Alors, les sujets abordés ont été extrêmement vastes, des relations internes au Parti républicain, ou en tout cas au soutien. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut séparer le Parti républicain du trumpisme? C'est une question d'ouverture, mais des dissensions qui commencent à naître au sein du trumpisme, des répercussions de la politique du deal de Trump sur l'Europe, ses alliés historiques, qui peut créer également un certain éloignement, des erreurs de communication interne, notamment sur les questions migratoires à Minneapolis. On a parlé rapidement, on n'aura pas le temps de revenir dessus, sur ces questions religieuses aux États-Unis, cette brouille avec une partie de l'électorat catholique américain qui a pu mal prendre cette embrouille avec le pape et cette fameuse image IA de Donald Trump en médecin de la Croix-Rouge qui est été généré et donc cette guerre. Nicolas Conquer, pour les midterms, vous le sentez bien?
Je le sens d'autant mieux. Alors, il faut savoir que c'est jamais favorable au parti au pouvoir.
Il y a que 3 victoires, je crois, du parti
c'est historique. On a une forte polarisation qui font que les districts sont fortement démocrates ou fortement républicains et que ça se joue aux marges. Là, comme je vous l'ai dit, il y a une majorité de 3 sièges républicains. Il suffit d'en perdre 3 pour que la majorité bascule. Maintenant, il y a des décisions de la Cour suprême qui sont allées dénoncer des découpages électoraux, comme ce qui se fait assez régulièrement aux États-Unis, qui se faisaient uniquement sur le biais de la race. D'ailleurs, j'ai envie de favoriser, et donc soit ça s'était contesté et ça va refavoriser les républicains parce qu'on va revenir sur des cartes qui étaient nulles et injustifiées. Maintenant, moi, de manière plus spécifique et pour répondre à votre question, je pense qu'il nous intéresse notamment au-delà des midterms, c'est ce mouvement MAGA. En fait, c'est pas un parti traditionnel. C'est quelque chose d'assez hétéroclite et vraiment s'interroger sur c'est de l'avenir. Comment est-ce qu'il fait pour être unifié une fois que Trump est plus au centre du dispositif? Alors, on l'a vu, lorsqu'il était à Mar-a-Lago entre les deux mandats, il continue à jouer un rôle politique. Est-ce que, en fonction de la réussite de ce second mandat, soit ça sera une force d'appoint qui sera importante pour amorcer un Vance, le candidat naturel, ou quelqu'un qui sera sur une autre ligne, mais il faudra arriver à créer une autre coalition, parce que systématiquement, si vous souhaitez vous faire réélire sur la coalition de votre prédécesseur, elle est forcément réduite et c'est pas suffisamment pour l'emporter. Donc je pense que ça va se jouer, je suis assez confiant sur une résilience au niveau du Sénat, et potentiellement, si Donald Trump fait ce qu'il faut faire en termes de mobilisation, en disant regardez ce qu'on a fait durant nos 2 premières années, on pourra continuer durant la fin du mandat, et je pense que ça peut être assez mobilisateur.
Alexandre de Guelzin.
Évidemment, je vois très mal Donald Trump gagner les midterms, dans le sens où, encore une fois, c'est extrêmement rarement arrivé, et il a une cote de popularité qui est comme aujourd'hui quand même très basse par rapport au début de son mandat. D'un autre côté, donc ça veut dire qu'il va sans doute perdre la majorité, notamment à la Chambre des représentants. Ça va rendre la situation très difficile, et en réalité, sur évidemment la question de fond, j'aurais tendance à penser qu'il y a 2 successeurs actuellement potentiels, Marco Rubio et Jed Vance. Ils se regardent un petit peu en chien de faïence sans jamais vraiment oser s'affronter l'un l'autre. C'est un petit peu la course à qui sera un petit peu le chouchou de Donald Trump, et en réalité, ça donne une question un petit peu complexe pour la suite. Qui devra être comptable du trumpiste ou du trumpisme, alors qu'il pourra l'être d'une certaine façon. Et justement, selon les résultats de la suite du mandat, la question de 2028 va se poser. Est-ce qu'on va avoir justement quelqu'un, un Jed Vance par exemple, qui va se détacher de Donald Trump pour essayer de ne pas être comptable d'un mauvais bilan? Est-ce qu'on va avoir un Marco Rubio qui va essayer de récupérer pour lui le bilan de Donald Trump en expliquant que c'était un excellent bilan? On ne sait pas exactement ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il va y avoir une recomposition. Est-ce qu'elle se fera sur une alternative au trumpisme ou sur le trumpisme? Moi, j'aurais tendance à pencher pour la première option.
Très bien, donc pour Nicolas Conquer, un bilan qui est totalement défendable et que les Américains peuvent entendre, et qui est en fait la réponse à des promesses qui ont été tenues, et comme vous le disiez, en France on n'a pas forcément l'habitude, et donc pour Alexandre de Guelzin, un bilan qui est difficilement défendable, et donc rendez-vous aux midterms pour voir ce que tout ça donnera, mais encore beaucoup de choses peuvent se passer durant les mois à venir. Le temps médiatique est énorme, à dans 6 mois, et je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle émission du Libre Journal de l'Occident, et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses acerbes sur des questions géopolitiques ou de politique nationale.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de l'Occident, dirigé par François-Xavier Jiquel, émission préenregistrée le 5 mai 2026 et diffusée pour la première fois le mardi 12 mai 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.